France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des solitudes hallucinées ce samedi dans Plan Large avec Fabio Grassadonia, Antonio Piazza et Darren Aronofsky et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Ce sont des mauvais, très mauvais trips dans lesquels nous plongent les deux films qui nous occupent aujourd'hui. Le premier est celui que traverse depuis des décennies la Sicile, qui n'en finit jamais de lutter contre ses démons, ceux de la mafia en particulier. Il est dû à un duo de cinéastes insulaires, Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, qui après Salvo en 2013 et Sicilian Ghost Story, c'était en 2017, livre avec Lettres siciliennes le dernier volet d'une trilogie où ils interrogent inlassablement les rapports de leur terre d'enfance avec la puissance occulte qui la défigure littéralement. Après s'être intéressé façon polar à une figure de tueur, puis comme un conte fantastique à un enfant séquestré et atrocement assassiné, ils s'inspirent cette fois, dans un singulier mélange de comédie grotesque et de paranoïa mabusienne, de la cavale de 30 ans d'un boss véritable, Matteo Messina Denaro, qui communiquait avec ses affidés par des petits mots, des Pizzini en sicilien. Ces lettres siciliennes, Fabio Grassadonia et Antonio Piazza les ont lues et en ont tiré matière à ce récit porté par deux des meilleurs acteurs italiens du moment, l'incontournable et facétieux Tony Servillo et le sombre et minéral Elio Germano. Nous avons rencontré les deux cinéastes lors de leur passage à Paris. Nous les entendrons dans un instant. Nous avons profité aussi de la présence à l'occasion de la rétrospective que lui consacrait jusqu'à mercredi dernier la Cinémathèque française du cinéaste américain Darren Aronofsky pour revenir avec lui sur son second film réalisé il y a 25 ans et devenu depuis culte, Requiem for a Dream, ressorti en salle cette semaine en version restaurée, en attendant sous peu son édition en Blu-ray. En fin d'émission, Sandra Onana reviendra dans sa chronique sur un chef-d'œuvre maudit de Samuel Fuller, Dressé pour tuer, son adaptation à l'os du chien blanc de Romain Gary, mais pour l'heure, on part donc en Sicile, au pays des politiciens corrompus et des parrains oedipiens.
Padre era tutto per lui e ora l'ha perso. Questo è il suo unico punto debole.
E quello che ti dico è che facciamo. Non è parlare con molto.
La situazione è troppo rischiosa.
Nessuno deve sapere che tu hai ricevuto questa lettera.
Mio padre tante cose mi insegnò. Ma essere sparatoso? No.
Bonjour Fabio Grassadonia.
Buongiorno.
Et bonjour Antonio Piazza.
Buongiorno.
C'est le troisième volet d'une trilogie que ce Lettres siciliennes après Salvo et Sicilian Ghost Story. Est-ce que cette trilogie était prévue dès le départ? Et est-ce qu'il y avait déjà un plan d'abord de parler du tueur, puis de parler de la victime, puis de parler du parrain?
L'idée de la trilogie a été
depuis le début, depuis Salvo. Nous savions que on voulait s'occuper d'un thème qui tenait beaucoup à cœur, puisqu'on est sicilien. On a grandi dans les années 80-90 en Sicile. Les années les plus terribles de notre histoire récente. Et donc, on avait compris que nous avions besoin
di più storie
d'histoire à raconter pour restituer le thème de la complexité du monde que nous voulions raconter.
Et
depuis le début, nous avions décidé de raconter les trois histoires articulées à l'intérieur de trois genres cinématographiques différents. Des genres choisis pour désactiver un peu les attentes du genre de film de mafia.
Oui, parce qu'effectivement, vous n'avez pas inventé le genre film de mafia, c'est un genre en soi du cinéma. Alors, je serais curieux justement de connaître votre regard sur ce genre-là. Est-ce que vous vous y retrouvez ou pas ? Est-ce que c'est entre autres parce que vous ne vous y retrouviez pas que vous avez voulu faire vos propres films sur ces questions-là ?
Parce que notre désir de raconter ces histoires vient de fondamentalement d'une colère par rapport à l'île à laquelle nous appartenons. Et nous avons choisi de récupérer une certaine forme révolutionnaire du cinéma à travers le récit de mafia. C'est un récit qui, d'une certaine manière, avait perdu sa force révolutionnaire, au moins en Italie. Et donc, il y a une très belle tradition de films citoyens, de films anti-mafia, par exemple, les films de Rosi, de Salvatore Giuliano. Et arrive cette tradition jusqu'à Cento Passi de Marcello Giordana. Et ensuite, en réalité, surtout avec la fiction télévisée, nous sommes tombés dans des stéréotypes. D'un côté, il y a le mafieux terriblement méchant et isolé, et de l'autre, il y a les bons qui tentent de le combattre et sont souvent portraiturés de manière comme des apologies. Mais la réalité est très différente que nous avons vécue. Cette réalité est celle de l'être sicilienne, parce que la zone grise autour de gens qui sont en cavale est déterminante.
Et de ce fait, on se rend compte que vous vous défiez beaucoup de la représentation de la violence, notamment, puisque le film de mafia, c'est aussi une fascination pour la violence. Comment est-ce que vous avez pensé ces scènes-là, ce que vous pouviez montrer et ne pas montrer ?
Notre trilogie s'ouvre sur une réflexion sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. La protagoniste de Salvo, notre premier film, c'est une jeune fille qui ne voit pas. Et on commence à regarder l'histoire de son point de vue, qui est un point de vue paradoxal. Ensuite, avec Sicilian Ghost Story, on s'est occupé de... On a raconté ce qui a été des faits les plus terribles de l'histoire de la mafia récente en Sicile. Et c'est clair que cette histoire, comme elle s'est produite, n'est pas racontable. On ne peut même pas la montrer. L'expérience concentrationnaire et de cet enfant protagoniste de l'histoire. Mais le genre de la fable que nous avons choisi, de cette histoire d'amour entre deux enfants, notre jeune nous a donné la possibilité d'accès à un niveau émotionnel pour raconter cette histoire, mais en forçant le spectateur à voir l'horreur dont on parle souvent avec trop de superficialité, sans comprendre véritablement ce que c'est que cette horreur. Là, nous avons fait un acte de force. On devait plonger dans l'horreur dont cette petite fille essaye de ne pas être prise vivante. Le dernier chapitre, L'aide sicilienne, désactive complètement les attentes de ce genre de film de mafia. Il n'y a plus de possibilité de romantisation. Le seul romantisme possible de ce type de personnage, de ce type d'histoire. Parce que c'est un monde dont la substance est le vide, fondamentalement. C'est un monde qui est mauvais, malveillant,
sans
même plus s'en rendre compte.
Oui, on pourrait dire que c'est un monde de la médiocrité, mais avec des gens qui se la racontent. Des gens qui pensent être plus grands qu'ils ne sont et qui sont presque enfermés dans les histoires, dans les fictions qu'ils se racontent.
Absolument.
Les deux personnages du film, le mafieux et le politicien qui s'échangent des lettres, sont des hommes qui se la racontent justement, qui constamment mettent en scène des choses qu'ils ne sont pas. C'est un monde de bavardage et donc de mensonges.
Et ça, vous l'avez découvert dès que vous avez lu ces lettres, ces fameux Pizzini échanger ce mafieux dont vous êtes inspiré, Matteo Messina Denaro. Quand vous avez lu ses lettres, vous avez eu déjà cette dimension presque mythomane.
C'était justement le ressort qui nous a porté à raconter cette histoire. Sa cabale a duré 30 ans. Lui gérait sa vie et ses affaires juste à travers ses Pizzini, ses petites lettres. Il a dû écrire, en lire des milliers. Donc, malgré lui, c'est comme s'il s'était transformé en une sorte d'écrivain épistolaire. Et la chose qui nous a beaucoup frappé, c'est que lui, il traitait les affaires dans ses lettres en quelques lignes. Et ensuite, il commençait avec cet ego de narcissique pathologique. Ici, il allait sur les réflexions, sur le sens de la vie, sur la mort, Dieu ou pas Dieu. Il se prenait beaucoup au sérieux, mais toujours à l'intérieur d'une manipulation constante. Et donc, ces lettres portaient une lumière puissante sur ce monde ridicule qui a permis à ce type de cavale-là.
La prima cosa che ci ha colpito
la première chose qui nous a frappé, c'est que une dans ces lettres au maire, il citait Daniel Pennac, c'est le personnage de Benjamin Malocène, en se voyant lui comme un bouc émissaire de tout le mal qu'il y avait autour de lui.
Ma che ha combinato?
Signora, non si preoccupi, in un paio di giorni richiudo tutto con una bella finestrella.
Mi faccia richiudere immediatamente.
D'estate in casa soffoco e necessito un pochettino di aria, mi capì?
Ma lei non può aprire una finestra sul mio terrazzo, la legge non lo permette.
La legge? Vabbè, la legge, che c'entra la legge con una cortesia fra buoni vicini?
Mi chiamo i vigili urbani, subito.
Perché lei tutte cose in regola c'ha?
Le titre italien de votre film, ce n'est pas Lettre sicilienne, c'est Idou.
Yes.
Idou, ça veut dire lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on ne nomme même pas, on pourrait dire qu'il n'a même pas de substance.
Idou est un mot du dialecte sicilien, c'est lui. C'est lui au sens de Dieu.
Et aussi
le volcan en Sicile, le Stromboli s'appelle Idou. C'était un des noms de code qu'il utilisait, qu'il utilisait ses correspondants pour se référer à lui. Aussi la peur de le nommer. Et donc, souvent, dans certaines interceptations, on voit des gens qui s'adressent à lui comme Idou, avec le mouvement des yeux, et il l'appelle comme ça, Idou.
Est-ce que c'est parce que ces personnages vivent dans un monde imaginaire que vous-même, vous avez construit votre récit avec une frontière très floue entre la réalité, le rêve, les fantasmes, les souvenirs?
Oui, fondamentalement, ce que nous cherchons un peu à faire et ce que nous avons fait dans cette trilogie sicilienne, c'est d'essayer de donner corps à des fantômes qui sont dans la vie de certains humains. Nous voulions que ce qui ressorte la nature profonde de ce personnage, la nature noire, une nature dans laquelle la frontière entre la réalité et l'imagination est une frontière très, très mince. C'est une réalité qui a besoin de cette imagination
comme
pour retrouver la superficie et découvrir ce qu'il y avait réellement sous la superficie. Et la banalité de cette réalité.
Je me suis demandé d'ailleurs pendant longtemps dans le film si ces personnages n'étaient pas des morts vivants. On dit à un moment à cet homme politique joué par Tony Servillo, lui croit être vivant, il dit je suis vivant, et sa femme lui dit seulement en apparence.
Si, assolutamente.
Oui, absolument. Dans nos deux films précédents, même si dans un monde de morts vivants, en certain sens, il y a une rencontre entre deux personnes qui peut être une rencontre d'amour qui ramène la vie. Dans le monde de Idu, de l'être sicilienne, cette rencontre n'est pas possible. Ce sont des morts, fondamentalement, parce que dans le contexte Idu, l'espoir n'existe pas. La catharsis, c'est impossible.
On a même l'impression que ce sont des personnages qui n'habitent pas exactement le même univers. On a d'un côté celui du parrain joué par Elio Germano, qui est tout en minéralité, qui est en train de se fossiliser, en train de se transformer en statue. Et puis on a cet homme politique joué par Tony Servillo, qui lui, au contraire, est dans l'agitation et dans la fanfaronnade. C'est presque le fanfaron, c'est presque Vittorio Gassman dans le fanfaron. Et c'est comme si, effectivement, ils n'étaient plus dans le même registre. Et de ce fait, ils ne peuvent plus parler.
Questa è stata proprio, cioè quello che noi abbiamo organizzato.
Ce que nous avons essayé d'organiser dans cette histoire, c'est une étrange danse qui entre deux personnages qui ne se rencontrent jamais.
Se non nella loro immaginazione,
sinon dans leur immagination et dans leur peur.
Il lavoro
le travail
per il personaggio del boss latitante,
Elio Germano était un travail de mimétisation, il s'est complètement calé physiquement sur son personnage,
mentre
alors que Tony Salville a fait un travail différent.
Et si è ispirato un personaggio,
s'est inspiré d'un personnage qui a réellement existé, cet homme politique, mais avec lui ça n'était pour nous l'occasion de donner exactement le sens de ce monde dans lequel nous allions, de jouer avec le masque
du
typique, de l'italien typique qui est sympathique, qui est un peu beau parleur que nous avons connu avec les grandes comédies des années 60 comme Gassman et Sordi. Lui, c'est une sorte de polichinelle qui a l'illusion de pouvoir construire un futur. Et comme polichinelle, il est capable de s'asseoir à n'importe quelle table. Pourvu qu'on mange. Et à chaque table, il a un rôle différent.
Et
ça, c'est vraiment la quintessence de l'Italie.
Ti posso fare una domanda?
Se riguarda la missione.
Ma perché ancora tutta questa ostilità nei miei confronti?
A me interessa solo di catturarlo, di te non me ne frega niente.
D'accordo, ma che cos'è che veramente non sopporti nel sottoscritto?
A parte il fatto che eri il migliore amico di un famoso capo mafia, sei il padrino di suo figlio e hai collaborato a svariati reati?
Io non ho mai avuto problemi con i miei nemici. Sono i miei amici che non mi hanno fatto dormire la notte. Ho fatto qualche favore di troppo.
È quello che ti racconti ogni mattina davanti allo specchio, no?
Au centre de ce film, il y a aussi cet hôtel inachevé, cette ruine moderne qu'on voit souvent. Il y a tout un mouvement en Sicile qui récupère de façon artistique ces chantiers inachevés. Ça s'appelle le mouvement Incompiuto, l'inachevé. Est-ce que vous avez filmé cet hôtel en pensant à ce mouvement artistique ?
Nous sommes habitués à être entourés par les ruines en tant que Siciliens. Les ruines des temples grecs, les ruines des constructions illégales qui ne sont pas terminées. Dans notre film, dans un certain sens, elles sont d'une certaine manière l'une à côté de l'autre. Il mondo dell'albergo, l'hôtel qui n'est pas construit,
del mondo
di Cotello, che personaggio
il mondo delle sue illusioni perdute,
costruito par Tony Salvillo, è il mondo de ses illusions perdues.
Non vedo in quanto siciliani
on voudrait s'endormir dans un monde merveilleux de soleil, de mer, de temps grec, dans un monde on va vers l'espoir, on va la récupération de notre territoire.
La réalité qui
nous c'est que nous nous réveillons le jour suivant dans le monde de Matteo Messina Denaro. Pendant ces 30 ans de cavale, de l'alliance entre lui et le système politique, la bourgeoisie, la franc-maçonnerie, ils ont produit seulement des ruines.
La
cécité,
les
hôpitaux qui ne fonctionnent pas, de cercueils qui attendent leur tour pour les cimetières siciliens.
Ce monde
est notre présent. Par rapport à ce qui est inachevé, ne pensons pas que ces ruines de ce monde contemporain sicilien ne peuvent aller contre. C'est pas du même type qu'un Sam Kiefer, ce qu'il fait avec l'art. Il n'y a plus de possibilité de beauté dans un territoire, dans l'intérieur de certains territoires.
Mettiamo in scena la nostra bellezza del passato.
Nous mettons en scène notre beauté du passé.
Un teatro per i turisti.
Un théâtre pour les touristes.
En tout cas, ce que vous montrez aussi dans votre film, c'est que la mafia arrange beaucoup de monde. Il y a ce rôle un peu mabusien des services secrets qui observent, mais qui surtout n'interviennent pas, parce qu'on ne sait jamais à quoi ça peut servir. Et c'est résumé dans une chanson qu'on entend à la fin du film, qui dit « La malvagità serve al mondo intero », la pègre sert au monde entier.
Oui, parce que la chanson qui a été écrite à la fin, qui suit la bande son du film,
et
dans une certaine manière ferme thématiquement le sens de cette exploration de ce monde de zombies qui s'agite sur la surface du monde en ayant l'illusion d'être en vie et d'avoir un sens.
La
mauvaise vie n'appartient pas seulement à cette figure de Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro lui ressemble beaucoup.
Sì, i servizi segreti,
les services secrets
in Italia,
en Italie
sono collegati
sont reliés souvent
agli interrogativi destinati a restare irrisolti.
Une question qui est destinée à ne pas être résolue,
che riguardano non solo la mafia,
mais aussi toutes les pages les plus sombres de notre histoire.
Ed evidente che nessuno
il est évident que personne peut rester libre pendant 30 ans.
Si
personne ne l'aide.
Et pour aiutarlo,
et pour l'aider,
tu
as tes propres raisons pour l'aider. Donc, et ces raisons sont principalement économiques.
Et
dans certains cas, solidaire à un système politique qui cherche à se maintenir en vie lui-même.
Merci beaucoup.
La malvagità appartiene all'uomo, si muove di giorno, la notte nel buio se ne sta, è una stella. La malvagità ride, gioca e spara. Se cade nel buio se ne sta, è un sasso e non le importa di nessuno, se stai male forse meglio, se sono fiamme senza il fuoco. E quando canta squarciagola vedi il diavolo, un testamento senza eredità. Si prende pure il cielo, la malvagità non conosce il freddo, si scalda col pianto, l'amore è una vigliaccheria e sabbia. Serve al mondo intero.
Lettre sicilienne de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza sortira en salle mercredi prochain. Merci à Olivier Favier d'avoir traduit d'une seule voix les propos du duo. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on retourne 25 ans en arrière à Brooklyn, dans le quartier de Brighton Beach et Coney Island. C'est là que le jeune Darren Aronofsky, alors auteur d'un seul film, Pi, qui avait déjà fortement impressionné par son invention visuelle, a tourné en famille et dans son territoire d'enfance, lui aussi, son adaptation d'un livre d'Hubert Selby Jr., Requiem for a Dream, édité en France à l'époque sous le nom de Retour à Brooklyn. Il y croise les parcours de quatre êtres solitaires, tous victimes d'addictions à diverses substances. Un couple de jeunes amoureux, joués par Jared Leto et Jennifer Connelly. Leur ami Tyrone, c'est Marlon Wayans. Et la mère du premier, le personnage sans doute le plus tragique et touchant du film, porté par une sidérante Hélène Burstyn, une mère juive, veuve et obsédée par son désir de passer à la télévision et qui tombera dans la dépendance aux amphétamines prescrites par un médecin douteux pour la faire maigrir. À sa sortie en 2000, cette descente aux enfers à la mise en scène baroque a marqué toute une génération de spectateurs. Il est même depuis devenu un objet d'étude dans les facultés de psychologie pour l'étude du comportement des toxicomanes. 25 ans après, la crise des opiacés étant passée par là, il est évidemment toujours autant d'actualité, d'autant que c'est sans doute avant tout aux promesses frelatées du rêve américain que tous ces personnages sont accros. Le film est ressorti en salle mercredi dernier. Darren Aronofsky était à Paris toute la semaine dernière pour rencontrer le public de la Cinémathèque française qui lui consacrait une rétrospective. Nous l'avons rencontré entre deux séances.
I always thought you were the most beautiful girl I ever seen.
Really?
Ever since I first saw you.
That's nice, Harry. It makes me feel really good. You know, other people have told me that before. And it was meaningless.
Bonjour, Darren Aronofsky.
Bonjour.
Est-ce que vous vous souvenez du jeune homme que vous étiez il y a 25 ans, quand vous avez tourné Requiem for a Dream, et comment est-ce que vous le regardez aujourd'hui?
I think it, like a related brother, related
comme un frère,
cousin.
Un cousin, mais pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui. J'ai pas vu le film tant de fois depuis sa sortie. La dernière fois, c'est quand le Blu-ray, le premier Blu-ray, est sorti, il doit y avoir 15 ans.
Toute
mon équipe avait travaillé pour le transfert sur le support Blu-ray.
But at the end, they asked me to take a
fin,
look at it just to make sure.
Ils m'ont demandé
right.
De regarder ce que ça donnait.
I didn't want to, but
j'avais pas
I
envie.
Agreed to.
Mais bon, j'ai dit OK.
And I could remember when I watched it.
Je me rappelle quand j'ai regardé chaque plan.
I could remember shooting every single
shot. Je me rappelais du tournage de chaque plan.
But the person who had made it was a completely
Mais
different
la
person.
Personne
than
qui l'avait fait était devenu quelqu'un de complètement différent. J'étais différent.
And I think that's so important as
c'est très
a,
important
artist and a filmmaker,
en tant qu'artiste, en tant que cinéaste,
is to keep moving forward, to keep growing,
d'avancer,
to keep
de grandir tout le temps, de changer.
Even if your best work was
même
25
si
years ago.
Votre meilleur film, ben, c'était il y a 25 ans.
Votre meilleur film, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fallait sans doute une certaine inconscience pour pouvoir faire un film comme ça. Il fallait l'inconscience de la jeunesse.
Yeah, I mean, definitely the naïveté and
c'est
the,
sûr qu'il fallait être naïf et de l'arrogance
helps to make something
parce que ça aide à construire quelque chose qui soit nouveau
disconnected from
et déconnecté
what audiences may think they want.
Des désirs du public.
But that allows for some great adventure.
Ça permet de partir à l'aventure.
I think making films
je crois que faire
always
des films,
is a tremendous naïveté.
Ça veut dire être naïf.
Passion,
la passion
of a film is so overwhelming
d'un
and so
film,
powerful
elle vous enivre,
that it blinds
elle vous
you
écrase,
from all the pain.
Et elle vous rend aveugle de toute la douleur
probably,
que ça implique.
The only thing I could think possibly similar is
quelque chose de similaire,
how women talk
quoi?
About
c'est quand les femmes
how they forget the pain
parlent
of childbirth,
comment elles ont oublié la douleur de la naissance pour avoir un second enfant.
The payoff's important, but then
la douleur c'est
the
important,
pain is
mais la douleur,
inescapable.
On ne peut pas la fuir.
Ce qui a peut-être facilité les choses pour le jeune homme que vous étiez, Darren Aronofsky, c'est que vous tourniez en terrain de connaissance, puisque le film, comme le roman dont il est inspiré, se passe dans le quartier de votre enfance. Qu'est-ce que le film, au-delà des questions d'addiction dont on va parler, raconte de ce quartier-là ?
The book is actually set in the Bronx, not
le roman en fait se passe dans le Bronx.
But one of the first things I did was ask Hubert Selby Jr. if
et j'ai tout de suite demandé à Hubert Selby Jr., l'auteur, de transférer à Brooklyn. Et ça lui était complètement égal. L'addiction, c'était international, peu importe. Mais il m'a permis de pouvoir utiliser les lieux que je connaissais, les rues que je connaissais, les accents que je connaissais, et d'en faire quelque chose de plus personnel. Cependant,
I mean, there's a lot it tells about the neighborhood. It's
ça dit beaucoup de choses sur ce quartier.
I tried to kind of
j'ai essayé
base the reality of the characters
de baser la
and
réalité
characters
des personnages sur des gens que j'avais croisés.
The kind of race relations between
les relations entre les races.
A Jewish guy and black guy being best friends was something
ce juif
that was
qui est meilleur
very
copain,
common
meilleur
in Brooklyn.
Pote avec ce noir. C'est un truc de Brooklyn, ça.
And just trying to capture
d'essayer
the
de
mood of Coney Island and Brighton Beach,
l'ambiance de
which
Coney
are
Island,
such kind of,
qui sont des lieux qui
the
sont
perfect cinematic
qui sont
landscapes,
absolument cinématographiques, qui sont in comme so un rêve de plein de façons différentes. Et c'est pour ça que j'y retourne souvent. Mon nouveau film qui s'appelle Stealing, il se passe à Coney Island. C'était bien d'y retourner. Encore une fois.
On ne quitte jamais vraiment Brighton Beach, j'imagine, Darren Aronofsky.
Oh, I've left Brighton Beach.
Oh si, j'ai quitté
I've
Brighton
left.
Beach.
It's, I do feel like I've left Brighton Beach.
J'ai l'impression, en tout cas, de l'avoir quitté Brighton Beach.
The new movie is based on a book, and the book
est basé sur un roman
has sequences in Coney Island.
Qui a des séquences, des moments, enfin des scènes,
so I think
des chapitres à Coney Island.
The material keeps pulling me back, but
et donc, quelque part, le roman d'origine m'y a fait retourner. Mais il m'a fallu du temps, mais aujourd'hui, je me sens émotionnellement. J'ai envie de faire des films ailleurs. En Europe, peut-être, bientôt.
Ada told them. It's gorgeous.
We're going to make it a little darker tomorrow.
Why dark?
To go with my red dress.
Yeah, but now it's looking like Madonna.
This is not Madonna.
And neither is this. But soon, I'm going on a diet.
What diet are you on?
Eggs and grapefruit.
Oh, I was on that one. Lots of luck.
It's not so bad.
How long you been on it?
All day.
All day? It's 1 o'clock.
I'm thinking thin.
She's thinking thin.
My Louise, she lost 50 pounds just like that.
Like that?
Like what?
Poof!
What'd you do, put her in a sweatbox?
Je suis assez curieux. La première fois que vous avez lu le livre d'Hubert Selby Jr., je crois que vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout. Je crois que vous n'aviez pas vraiment l'idée d'en faire un film, mais quelles sont les premières visions que vous avez vues? Quelles sont les premières images qui vous sont arrivées?
I mean, I read, when I first read the book, it was
so quand j'ai lu le roman, c'était tellement proche de tant de choses auxquelles j'avais pensé pour faire un film.
20-30 years ahead of me.
Et so quelque like, part, you know, c'était un bouquin qui avait 25 ans, quelque chose.
Then my producer read the full book.
Le producteur a lu le roman, il m'a dit, il faut que tu finisses quand même. Et là, j'ai terminé le livre et là, ça a commencé à fonctionner pour moi. Il y a tellement d'images qui me sont arrivées, qui me sont venues du roman, que je ne me rappelle pas trop clairement comment il arrivait à mettre sur la page des choses intérieures. En termes visuels,
Sarah,
le personnage d'Hélène,
eats a box of chocolate.
Elle mange une boîte entière de chocolat.
Into the feeling
et là,
of
il entre dans le sentiment du chocolat
her as she
dans ses
it.
Doigts.
And then the feeling of it going inside her mouth.
Et elle, qui le sentiment qu'elle a quand elle le fait pénétrer sa bouche.
That sequence is in the
cette
movie,
séquence, elle est dans le film. Et c'est peut-être
in the movie, one of the weaker,
dans le film le moment le plus faible, l'adaptation la plus faible des mots. C'était très compliqué parce qu'il décrit le sentiment d'un chocolat dans sa bouche, qui tourne dans sa bouche. Avec des effets spéciaux d'aujourd'hui, peut-être j'aurais pu trouver quelque chose pour essayer de traduire à l'écran ça. Mais à l'époque, je n'avais pas d'idée.
So amazing in the book that
mais
was
il y avait
so
d'autres choses qui étaient tellement fortes dans le roman.
It just came to life. Even the opening sequence
même la séquence
in the book
d'ouverture dans le roman,
the mother and the son
la
fighting,
mère et le fils qui se battent,
knowing I had two main characters that
et je savais que j'avais deux personnages principaux
the better part of the picture,
qui,
how to best show that fight.
Quelque
and
part,
that sort of triggered
this idea, il fallait que je trouve la meilleure façon de montrer ça à l'écran pour introduire le film.
Of the book, as I was reading it over for the second time,
lisais le roman pour la deuxième fois,
and drawing the first split screen and becoming idea
et je voyais
right there
très bien que c'était suggéré qu'il allait avoir un split screen, et je me rappelle d'avoir pris note de ça.
Votre utilisation du split screen est justement très frappante, Darren Aronofsky, parce que souvent dans un split screen, il s'agit soit de réunir deux actions, soit de donner des points de vue un peu cubistes sur la même action. Vous l'utilisez presque pour séparer les personnages, même quand les deux jeunes héros sont dans le même lit, le split screen va les séparer.
Yeah. Well, that's what that first scene is about.
Oui, c'est l'objet de la première scène.
Fighting and
la mère,
apart.
Le fils qui se séparent.
And so
qui se battent.
I mean, part of the challenge was that
le pari,
she was in a closet.
C'est qu'elle était vraiment dans son placard.
In a very traditional way, it would be like from shooting in the closet.
Donc quelque part le filmage traditionnel, ça aurait été de la filmer dans ce placard. Mais je trouvais que c'était pas terrible. Mais l'idée de raconter une histoire de deux points de vue différents, ça, je trouvais ça enthousiasmant.
Harold, please, not again the TV.
Mark, come on, man. Why do you have to make such a big deal out of this, man? You know you'll get the setback in a couple of hours. Why are you gonna make me feel so guilty, ma? Jesus, what are you trying to do? You trying to get me to break my own mother's set? Or break the radiator? And maybe blow up the whole house, Ma? Is that what you're trying to do? Your own son, your own flesh and blood, Ma. Is that what you're trying to do? Your own son.
Évidemment, votre film est très frappant et très célèbre pour la façon dont vous représentez les états de conscience altérés. Pas seulement quand les personnages se droguent, mais aussi quand ils basculent dans la psychose. Pour trouver comment le représenter, est-ce que vous avez eu des références? Est-ce que vous êtes allé chercher dans d'autres films comment ça avait été fait? Ou est-ce qu'il fallait tout inventer?
I mean, there were a lot of techniques we had been playing around with in my short films.
Dans mes courts-métrages, je jouais avec pas mal de techniques.
Qui
quelque part ont trouvé leur aboutissement, certaines façons de montage. J'avais envie d'utiliser la caméra comme un outil expressionniste, un peu comme un pinceau, simplement un pinceau filmique, si vous voulez. Il utilisait le langage aussi, le son et la musique.
So I think it was just a different approach. Was
c'était
like
une approche différente.
Identifying what emotionally was going on.
J'essayais de m'identifier à ce qui se passait émotionnellement. J'essayais de trouver comment on pourrait utiliser la caméra d'une façon à souligner ce que nous voyions.
Je ne sais pas si vous avez fait une étude de près des effets que peuvent produire telle ou telle drogue. L'amphétamine, ça ne produit pas les mêmes effets que l'héroïne ou que la marijuana. Comment vous avez pensé ces séquences en fonction précisément des effets différents que peut faire la drogue?
Well, you mean how did I get?
Comment vous demandez comment j'ai fait l'expérience de ça?
Je ne veux pas le savoir.
Oh, you don't want to know.
Vous voulez pas savoir?
I mean, you know, research isn't hard to figure out.
Faire des recherches, c'est difficile. Il faut pourtant essayer de trouver de nouvelles façons de montrer les choses.
And I think I was always curious about drugs and
what they did. J'ai toujours été curieux des drogues.
Luckily, I was never someone
who had an addictive personality. J'ai jamais été une personne qui avait une personnalité liée à l'addiction.
I never needed to rely on drugs.
J'ai jamais eu besoin de drogues.
Except for maybe coffee.
Peut-être le café, cependant.
But that's like a three-day problem.
Mais bon, ça c'est un problème de trois jours à avoir mal à la tête et puis après ça part.
In general, I'm pretty level-headed,
en général,
so I was
je suis assez
experiment and explore in a
prêt et je suis complètement détendu et à l'aise, donc je suis prêt à expérimenter.
And if you just know enough people in the
et
world,
si vous connaissez un peu de gens dans le monde et que vous discutez avec eux, vous commencez quand même à comprendre qu'est-ce que c'est pour les gens de passer par là.
I'm good at translating those into
et mon talent peut-être c'est de savoir en faire des images.
C'est de toute façon moins un film sur les drogues que sur l'addiction, l'addiction en général. Et peut-être que vos personnages sont avant tout addicts aux rêves tels que l'Amérique le leur vend.
Yeah. Well, that's completely right.
Ça, c'est complètement
that's,
ça, oui.
That's exactly what
c'est tout à fait
Hubert Selby Jr. was talking
ce
about
que Hubert Selby parlait
talked about Requiem for
quand
a
il
dream.
Parlait de Requiem for a Dream.
But the kind of addiction to the hope.
Cette addiction à l'espoir.
Although I have to say his life is pourtant, je dois a dire bit que of an American dream.
Sa vie est quand même un rêve américain.
In the sense that
dans le sens
he wrote himself out of poverty.
Par l'écriture, il est sorti de la pauvreté.
To a place that
il est allé quelque part où
he was generally okay
où il était quand même à l'aise à la fin de sa vie.
Very very well respected.
Il était très respecté.
And that just came from a lot of hard work.
Et ça c'était le résultat de beaucoup de travail.
But I think he did see
je crois que
a lot of people's
il avait croisé beaucoup de
hopes.
Gens et beaucoup d'espoirs d'autres gens,
by,
des espoirs détruits
different forms of addiction.
Par des formes variées d'addiction.
Je ne sais pas si vous avez été dans une vie antérieure un DJ, si vous avez pratiqué le hip-hop, mais le montage de votre film m'a vraiment frappé quand je l'ai revu 25 ans après sa sortie, comme vraiment une expression de ce genre musical, par la répétition, par les samples, par des gimmicks. Et je me suis dit que vous aviez monté ce film comme on peut scratcher un disque dans un set hip-hop. Est-ce que ça a été votre conception du montage sur ce film?
This is you 25 years ago thinking this?
Ça, c'est 25 ans plus tard, c'est-à-dire c'est votre pensée aujourd'hui?
Ça m'a frappé aujourd'hui.
Yes, it's today. Yeah. Yeah, I grew up in
oui, ben, j'ai grandi
the 1980s
dans les années 80
New York,
à New York.
And, hip-hop was
le hip-hop
invented,
était en train d'être inventé.
And very, very, it was a huge influence
et c'était
on
une énorme
my life as
influence
a teenager.
Sur ma vie en tant qu'ado.
I was very into sampling and scratching.
Je faisais du sample, je faisais effectivement du scratch.
And when I started to work in,
et quand j'ai commencé à travailler
movies,
dans le cinéma,
I started to think, how could
j'ai commencé
I use
à réfléchir
some of these
à
ideas? How
comment
could
je pourrais faire des samples,
images and sounds,
des échantillonnages de sons, pas seulement pour créer
music, like music with some flashing images,
la musique
but how to actually turn them into story
par des images,
techniques.
Mais essayer de parler de dramaturgie et d'écriture.
But it's funny because when I was in film school,
quand j'étais à l'école de cinéma, un des films s'était basé sur une nouvelle d'une personne, un vendeur qui va de porte en porte et qui essaie de vendre des fortune cookies, des petits gâteaux avec des petits papiers à l'intérieur. Et j'avais besoin de trouver une économie, d'essayer de trouver une façon de montrer son addiction à ces cookies. Montrer un gros plan du cookie qui se brise Il voit le petit mot, il boit de la soupe et il en casse un nouveau, de façon à montrer qu'il était vraiment dans un cercle enfermé. Et quand j'ai fait pis, je trouvais que ça marchait très très bien, ça, pour les troubles compulsifs. Pour que ces troubles compulsifs soient à l'écran. J'ai eu l'impression que ça pouvait fonctionner bien avec son esprit paranoïaque. Et quand on a travaillé sur Requiem, là, tout ce qui concernait les drogues ne m'intéressait pas du tout. Tous les films sur la drogue faisaient quelque chose, une glorification avec les aiguilles. Et je pensais que c'était vraiment toute une façon, finalement, de prendre son pied en voyant un film. Ça ne m'intéressait vraiment pas, cette fétichisation. Le personnage, tel qu'il était avant de prendre les drogues, qui désirait la drogue, qu'on le voyait, ce que ça lui faisait quand il injectait la drogue, qu'il consommait la drogue, je voulais ça. Et je voulais arriver quelque part le plus rapidement possible à montrer ça. Et là, je me suis dit, mais j'ai la technique. Non seulement je peux l'utiliser pour les prises de drogue, mais aussi quand les gens ne parlent pas de drogue, ne pensent pas, mais ils allument la télé. L'espoir de regarder le courrier qu'il y a dans la boîte aux lettres. Et donc c'est devenu une technique, en fait, que j'ai utilisée pendant tout le film.
Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas que la musique soit redondante avec cette technique et fasse elle aussi du sample et du hip-hop et que vous avez demandé cette musique-là à Clint Mansell et au Kronos Quartet.
Originally, we had thought about using hip-hop for the soundtrack.
On avait pensé à utiliser du hip-hop pour la bande originale du film.
It worked actually well over certain scenes, but it wasn't really working well over most of the
films,
movie.
Mais pas sur la plupart du film.
So we went back to Clint.
Donc on est retourné vers Clint Mansell.
Tried to figure out
pour essayer de trouver
how to make it tell a story.
Comment faire que cette musique raconte quelque chose.
Did that and pulled it off.
Et il l'a fait et puis voilà, après il l'a retiré.
Merci beaucoup, Darren Aronofsky.
Ah, thank you, that was great. Thank you.
Requiem for a Dream est à voir sur grand écran et en copie restaurée depuis mercredi dernier. Il sortira ensuite en Blu-ray et Ultra HD 4K. Ce sera le 16 avril chez Bubblecom. Merci à Harold Manning d'avoir traduit les propos de Darren Aronofsky. Vous écoutez France Culture Plan Large. Quelques annonces avant de retourner en Amérique. Du 15 avril au 4 mai, au Forum des Images, on se demandera qui se souvient du génocide cambodgien. 40 films, des débats en présence de nombreux invités, des cours de cinéma et une exposition pour explorer à travers l'œuvre de Riti Pan et celle de la jeune génération de cinéastes une mémoire du génocide qui demeure fragile malgré des séquelles encore vives. À Lyon, deux maîtres du cinéma, en rétrospective et en perspective, dont on pourra explorer les éventuelles correspondances secrètes, même si elles semblent a priori improbables, mais puisque le second a été marqué à vie par le fleuve du premier, sait-on jamais, ce sont Jean Renoir et Martin Scorsese qui sont à l'honneur du 4 avril au 3 juin à l'Institut Lumière. À Paris, la Filmothèque du Quartier Latin célèbre les 130 ans de la Gaumont avec 76 films de la firme à la Marguerite. C'est depuis mercredi dernier jusqu'au 29 avril. Et chez les cousins de la Fondation Cédou Pathé, c'est l'affiche de cinéma qui est célébrée. Faire impression quand l'affiche de cinéma s'invente, c'est une exposition à voir jusqu'au 27 septembre. Ceci annoncé, place au meilleur ami de l'homme, le chien, enfin pas de tous les hommes.
That ain't no attack dog you got. That's a white dog.
Of course he's a white dog.
I don't mean his color. He's going to attack and kill black people.
That's crazy. I don't believe that.
What the hell do you mean, huh? You see the scar, lady? You see this goddamn scar? Well, I got that when I was 14 years old. A white dog did it. I'm gonna call the police. I'm gonna tell them we got a goddamn white dog here.
Joe, forget the police. And as for the rest of the men, he's just an attack dog. Understood?
Jeez. If you work on that bastard. I go.
Damn it, Keys! Don't start that again! You ain't got the time!
Take 5 weeks vacation, Joe. If I don't break him, I'll shoot him.
Un chien beau comme tout, c'est un berger suisse blanc, gentil tout plein avec sa maîtresse qu'il a recueillie, une jeune actrice hollywoodienne, et qui se révèle particulièrement agressif envers les Noirs. Vous aurez reconnu l'argument du chien blanc de Romain Gary. Nous en avions parlé la saison dernière avec la réalisatrice québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette qui en avait livré une très fidèle adaptation. Mais 40 ans avant elle, il y avait celle de Samuel Fuller, White Dog en anglais, Dressé pour tuer en français, une adaptation à l'os par ce grand cinéaste de la violence qui était Samuel Fuller. Adaptation qui a tellement déplu à son commanditaire, la Paramount, qu'il mettra 10 ans à sortir en salle et encore très parcimonieusement, la France étant un des rares territoires où on avait pu voir le film à l'époque. Il faut dire que Fuller a évacué tout le contexte politique littéral du livre, la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques, pour en retenir la moelle philosophique et même métaphysique, Sandra Onana.
Oui, parce que c'est un film qui se demande si c'est possible de désapprendre la haine, donc question philosophique, et par la haine, ce qui est désigné en réalité, c'est plutôt la peur. Parce que c'est comme ça qu'on inculque visiblement l'agressivité à un animal. Il faut lui infliger des traumatismes qu'il conditionne à attaquer. Alors ça explique comment ici un chien adorable dont on voudrait faire une grosse peluche se révèle en fait dressé pour attaquer les personnes noires et les tuer. Donc c'est un cliché de dire que les films du passé nous restent contemporains pour toujours, mais quand même, faut avouer que dans le cas de Dressé pour tuer, c'est assez perturbant l'actualité des questions auxquelles il renvoie jusque dans les polémiques de sa sortie. D'abord de façon très anecdotique, parce qu'il y a un monologue assez drôle dans le film sur les dresseurs d'animaux pour le cinéma qui n'auront bientôt plus de boulot quand on aura remplacé toutes les bébêtes à l'écran par la technologie. Et bon, ça précède de loin l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais plus sérieusement, il faut savoir dans quel contexte polémique le film sort, ou plutôt ne sort pas vraiment en effet, puisque Paramount bloque sa distribution. La raison, c'est notamment le mécontentement des milieux militants des droits civiques. Il y a des tribunes qui se demandent quelle est la légitimité d'un cinéaste blanc à s'emparer d'un récit sur le racisme, qui plus est adapté du livre de Romain Gary, auteur blanc. On va aussi reprocher au projet un manque de subtilité, jusqu'à craindre même qu'il ait un effet inverse de celui escompté, et donc qu'il déclenche des crimes de haine raciale. La mise en production du film, en plus, coïncide avec une période de meurtres sanglants d'adolescents noirs à Atlanta. Donc on voit bien, en 82, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. C'est vraiment intéressant de retrouver ces débats, parce que on en revient à tout ce dont on parle encore aujourd'hui sur le risque d'une complaisance, d'une jouissance du spectateur à regarder des personnes se faire massacrer à l'écran. Donc où se situera l'empathie, la dignité? Est-ce que c'est un divertissement? La commande du studio, en effet, elle était ambiguë, parce qu'au départ, c'était quand même de refaire Les Dents de la Mer avec des papates au lieu des requins. Jaws with Paws, en anglais, c'était ça le pitch. On peut ajouter qu'à Hollywood, à ce moment-là, on est très friand des films à sensation avec des vrais animaux. Il y a eu certes le bide du film Roar de Noël Marshall, tourné avec des centaines de vrais fauves sauvages. Mais pendant ce temps, Paul Schrader a fait sa version de la féline avec une panthère meurtrière. Et puis l'année suivante, il y aura Cujo, adapté de Stephen King, avec un Saint-Bernard enragé. Donc bref, au cinéma, en 82, on vient voir du sang. Et la morale, c'est qu'il faut être un excellent metteur en scène, comme Samuel Fuller, pour trouver comment regarder avec intelligence une bête et un homme qui s'affrontent. Alors oui, il y a du suspense, il y a une science assez superbe de la tension, du découpage sur les yeux de la bête, plein de trouvailles visuelles à hauteur de babine, à hauteur de patte. C'est même justifié de parler de film d'horreur par moment, surtout quand le chien s'évade de sa cage. On a un monstre en cavale, en fait. En plus, c'est un soir d'orage avec le son des éclairs et les cris des animaux au loin. On est quasiment dans l'imaginaire du loup-garou. Mais on pense plus souvent au western. Et sans doute parce qu'il y a un film de tauromachie en ce moment dans les salles d'Albert Serra qui s'appelle Tardes de Soledad, on pense aussi à la corrida. C'est vrai que toute une partie du film a lieu dans une arène en plein désert. Et c'est aussi beau que c'est terrible. En fait, c'est comme des scènes de danse avec la mort sous le soleil. C'est à partir de là que le film n'appartient plus vraiment à son héroïne, qui est toujours là. C'est cette jeune actrice toute juvénile, toute garçonne à la Jean Seberg, qui a recueilli le toutou sur la route et qui s'y est attachée. Sauf que dès que la peluche a révélé sa vraie nature, ça devient le film du dresseur. Et donc ça devient le film de Paul Winfield, magnifique acteur, dans le rôle d'un homme idéaliste, en fait, idéaliste à la peau noire, qui fait le serment de guérir la bête de sa haine. Et il en fait une affaire personnelle, en fait, presque politique. Elle est là, la portée philosophique du film, parce qu'on sait bien que ça peut finir que de deux façons. C'est soit lui, soit la bête. Donc le film aurait été fautif s'il avait oublié de se demander à quoi sert sa violence. Or, il n'y a pas une scène où Samuel Fuller ne réfléchit pas à ça. Il y réfléchit quand il refuse de glisser la caméra dans le point de vue du prédateur, par exemple. Ça aurait été une facilité de thriller. Il y réfléchit quand le chien fait sa pire victime dans une église et qu'au lieu de nous montrer l'horreur qui n'est pas montrable, on va plutôt s'arrêter sur le regard de Paul Winfield qui découvre le corps déchiqueté, juste les yeux qui pleurent et donc un chant sans le contre-chant. Et puis libre au spectateur de déduire ce que ça charrie comme mémoire noire américaine sur les corps lynchés du Sud, par exemple. En fait, la beauté du film ne serait pas la même sans ce pacte d'épure que s'est imposé Samuel Fuller, même sous surveillance artistique. Et cette épure, elle a trait à l'allégorie, tout simplement. C'est comme si chaque image devait faire symbole. Est-ce que la bête va mordre la main qui la nourrit? Est-ce que le chien est un loup pour l'homme? La réponse du film, à la fin, c'est celle d'une tragédie. Et c'est vraiment bien plus déchirant et bien plus mémorable que Les Dents de la Mer avec des papates.
Thank you.
Merci Sandra Onana. Dressé pour tuer de Samuel Fuller, c'est en DVD et en Blu-ray chez ESC Édition. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Raymond Elboui, Nicolas Mathias, Ludovic Auger et Mineta Diawara. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.